France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En Occident, l'image du bouddhisme a été largement construite par et autour du récit de la vie du 14e Dalai Lama, né en 1935 et établi en Inde à partir de 1959, d'où il dirige jusqu'en 2011 un gouvernement tibétain en exil. Un gouvernement qui n'en est pas un en réalité puisqu'il n'est pas reconnu par la communauté internationale. Le bouddhisme tibétain a néanmoins ses représentants, ses relais spirituels et culturels. On les trouve parmi la diaspora tibétaine, mais aussi parmi les milliers de convertis à cette religion qui intrigue et qui fascine en Europe et en Amérique du Nord depuis le 19e siècle, d'abord dans les cercles lettrés, puis beaucoup plus largement. Ceci en grande partie grâce à l'image pacifiste du bouddhisme, son principe d'une spiritualité sans Dieu, mais aussi en raison de l'émotion provoquée par l'histoire tragique du peuple tibétain, victime de répression et d'acculturation forcée en Chine. L'émission que voici, un numéro de La Matinée des Autres, diffusé en juillet 1983, rend compte de cet intérêt et même de cet engouement occidental, et français en particulier, pour le bouddhisme tibétain. Le Dalai Lama s'exprime ici lui-même en alternance avec plusieurs représentants de la communauté tibétaine en exil en France, ainsi que l'éditeur Maurice Salen, auteur d'un ouvrage sur le bouddhisme. Voici donc La Matinée des Autres, le Dalai Lama, Tibet et Tradition, une émission du 12 juillet 1983.
La matinée des autres, le Dalai Lama, Tibet et tradition. Par Marie-Odile Manchicourt, avec la participation de sa sainteté, le 14e Dalai Lama et la communauté tibétaine de France. Peu après la mort du 13e Dalai Lama, en décembre 1933, de curieuses formations nuageuses, percées d'arc-en-ciel, apparurent de façon répétée aux confins nord-est de la ville de Lhasa. Un champignon géant de forme étoilée poussa en une seule nuit sur le pilier nord-est de la pièce en laquelle reposait la dépouille du feu Dalai Lama. Quelques jours plus tard, on découvrit que la tête du défunt régnant avait tourné. Son visage ne faisait plus face au sud, la direction traditionnelle favorable, mais indiquait sans aucun doute possible le nord-est.
Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama du Tibet, est né le 6 juillet 1935 dans la province de Lamdo, à Taxter, petit hameau constitué de quelques fermes. Après des recherches effectuées dans le pays entier, il fut découvert à l'âge de 2 ans comme étant la réincarnation de son prédécesseur, le grand 13e. Comme toujours en pareil cas, lors de la localisation d'un nouveau Dalai Lama, des signes miraculeux décrivirent la demeure de l'enfant.
Au printemps de 1935, à la recherche d'une vision du Dalai Lama nouveau-né, le régent du Tibet, accompagné des membres de l'Assemblée nationale, entreprit un voyage au lac sacré, appelé Lamolatso. Se tenant seul sur un aplomb rocheux, le régent scruta les eaux qui, pour les Tibétains, possèdent la qualité de refléter le futur. un grand monastère coiffé de nombreux toits de jade et d'or flotta dans sa vision. Partant de la clôture, une piste étroite serpentait vers l'est jusqu'au sommet d'une colline pelée. En face de ce mont apparaissait une simple maison décorée de carreaux turquoises ainsi qu'un chien tacheté, blanc et marron. Pour clore cette perception, trois lettres de l'alphabet tibétain apparurent. Les augures supposèrent que ces lettres indiquaient précisément les noms de la ville et de la province recherchée. Guidés par cette vision, des groupes de recherche se mirent à rayonner à travers tout le Tibet. L'un d'eux effectua un trajet de plus de 1500 km en direction du nord-est jusqu'au monastère de Kumbum, renommé pour ses toitures de jade et d'or. C'est à partir de là que des moines conduisirent les enquêteurs jusqu'à une des maisons aux murs décorés de carreaux turquoises. C'est déguisé en marchand que les membres de la petite troupe se présentèrent à la porte. Ils demandèrent le droit de préparer du thé dans la cuisine, une coutume courante des Tibétains en déplacement. Alors que Khyentsang Rinpoche, le chef du groupe, se dirigeait vers la cuisine, un bambin montrant les signes d'une grande excitation courut à lui. Une fois juché sur les genoux de Rinpoche, l'enfant empoigna un rosaire qui avait appartenu au 13e Dalai Lama et qui pour l'heure se trouvait autour du cou de Rinpoche. « Si tu peux deviner qui je suis, je te le donnerai, » dit le moine. « Vous êtes un lama de Serra, » répliqua correctement le tout jeune garçon, qui enchaîna en nommant également les deux autres membres de l'expédition, alors même qu'il ne les avait pas encore vus. Le fait le plus remarquable était que l'enfant s'exprima dans la langue délicate de Lhasa, pratiquement inconnue de tous dans cette région. Leur intérêt, grandement éveillé, les enquêteurs installés pour la nuit décidèrent de repartir en secret avant l'aube. Mais ce ne fut pas encore assez tôt, car le petit garçon, se levant avant eux à la vue des préparatifs de départ, les supplia de pouvoir les accompagner. Ils réussirent à l'apaiser en lui promettant de revenir. Ce qu'ils firent afin de faire subir à l'enfant une série d'examens. Des articles ayant appartenu au défunt Dalai Lama, mêlés à des répliques habilement contrefaites, lui furent présentés. À chaque fois, le petit choisissait l'objet original tout en revendiquant avec force que ces choses lui appartenaient de droit. On lui fit passer d'autres tests, le tout parachevé par une auscultation physique approfondie. Il est dit que des 8 marques qui différencient le Dalai Lama des autres hommes, l'enfant les possédait toutes. Il n'y avait plus de doute. Le 14e Dalai Lama du Tibet, le précieux protecteur lui-même, était là, abordant tout juste sa deuxième année d'existence. C'est à l'âge de 4 ans et demi que Tenzin Gyatso fut conduit à Lhasa.
I think, you see, when I came from, you see, my birthplace to Central Tibet, Lhasa,
Lorsque je suis parti de mon pays natal pour aller à Lhasa, j'étais très petit. Je n'avais que 4 ans. C'est un âge très tendre et je n'ai pas ressenti de changement brutal. J'y suis allé comme ça.
Moins de 2 semaines après son arrivée, il monta sur le trône du lion, incarnant le pouvoir spirituel et temporel en tant que suprême souverain régnant du Tibet. Son enfance, entrecoupée de rares visites de sa famille, se déroula en la compagnie de moines et de serviteurs. Tous ceux qui l'ont croisé à cette époque rapportent que c'était un enfant ouvert et plein d'assurance qui endossait avec naturel le rôle de Dalai Lama. En grandissant, sa curiosité concernant le monde extra-tibétain le poussa vers des recherches personnelles, comprenant l'étude de l'anglais, des sciences et des mathématiques. Quant à ses propres études bouddhiques, il fut reconnu par ses tuteurs comme un élève sans pareil.
Dans son autobiographie « Ma terre et mon peuple », Sa Sainteté écrit « J'ai toujours eu la très nette impression qu'une naissance dans une famille riche ou aristocratique ne m'aurait pas permis d'apprécier et d'appréhender autant les réactions et les sentiments des classes les plus humbles. Mais grâce à ma modeste naissance, dans une famille peu fortunée et très simple, je puis être à même de les comprendre mieux et même de les deviner, de les saisir intimement, de mieux percevoir leurs esprits. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai un aussi fort sentiment pour eux. Je les ressens tellement que j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour améliorer leur vie et leur sort. Maurice Allen, vous connaissez personnellement le Dalai Lama?
Oui, j'ai eu l'honneur d'avoir plusieurs entrevues avec lui. Le Dalai Lama accorde beaucoup d'audience, d'ailleurs. Tout français, tout occidental allant à Dharamsala peut avoir une audience avec le Dalai Lama. Et puis je vais aussi à Dharamsala assez souvent, d'une part, pour avoir des contacts au niveau de la bibliothèque, la grande bibliothèque tibétaine qui est installée, c'est-à-dire sur le plan de la langue tibétaine, et puis aussi sur le plan de la médecine, parce que c'est là qu'est le centre médical tibétain, et il y a quelque chose de prodigieux au point de vue soins qui se passe là-bas.
Vous avez créé une collection, je crois.
Oui, je dois dire que grâce à mon amitié avec Jean Maisonneuve, une des plus vieilles familles orientalistes de France d'ailleurs, nous avons décidé, justement, pour préparer un peu la venue du Dalai Lama, de créer une collection qui s'appelle d'ailleurs Espace Indo-Himalayen. Et le premier livre est l'histoire d'Athènes, qui est un vieux guerrier campain, qui est encore vivant, qui a réussi à échapper à toutes ses aventures, qui est vivant, qui vit en Inde, et dont on a enregistré, en somme, les mémoires. Ces mémoires qui ont été remis en ordre par Jamyang Norbu, qui est un des plus brillants intellectuels de la nouvelle génération des Tibétains.
Je suis un vieil homme maintenant. L'âge m'a dérobé mes forces. Et le destin s'est emparé de tout ce que j'avais toujours chéri. De toute la hauteur de mon vieil âge, je me penche sur les souvenirs de mes jeunes années. Et ils sont là, devant moi, aussi vivants et clairs que les cours d'eau cristallins de mon pays, le Nyarong. C'était un beau pays, et la vie que nous y menions, quoique simple et dure, était riche en bonheur et en satisfaction. Alors, ils sont venus. D'abord avec des paroles douces et de l'argent brillant, puis avec les fusils de la mort. Ils ont pris mes champs, mes bêtes et ma maison. Ils ont pillé, désacralisé et brûlé les temples et les monastères où je me recueillais. Pareil à la vermine, ils ont massacré mes amis, ma famille, les lamas et tous ces gens chers à mon cœur.
Maurice Allen, avant d'être bouddhiste, les Tibétains étaient de redoutables guerriers. Aussi pouvez-vous nous dire quand et comment le bouddhisme est arrivé au Tibet?
Le Tibet est encadré à l'est, une large frontière commune avec la Chine, et vers le sud, une frontière avec l'Inde, le Népal, l'Assam, enfin ce qui constitue à l'heure actuelle l'Assam, et la Birmanie. Tous ces pays étaient bouddhistes. Les routes commerciales passaient par le nord du Tibet, les oasis du Nord, la route de la soie, la route des caravanes. Et comme c'était la grande époque du bouddhisme dans ces régions-là, il est bien évident que les Tibétains commerçants, et qui se déplaçaient beaucoup de toute façon, avaient contact avec des moines bouddhistes, particulièrement sans doute des moines chinois ou des moines des communautés bouddhiques du nord du Tibet, par exemple du Khotan, de pays comme ça. L'introduction du bouddhisme au Tibet, si vous voulez, c'est donc un peu faite au départ par porosité. Il y a un roi, par exemple, au IIIe siècle, qui un beau jour a reçu des textes bouddhiques en sanskrit. Alors, il ne pouvait absolument pas les lire. Ce roi, c'était la Tottori. Ses ministres, son entourage, disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces livres? D'où ça vient? Et comme il ne voulait pas dire que c'était des livres qui venaient de l'Inde, parce qu'il a peut-être peur d'implications politiques ou quoi, il a dit qu'il les avait reçus du ciel. J'étais tombé du ciel, c'est le cas de dire. Le premier livre bouddhiste Tibet est tombé du ciel. Comme on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, on l'a appelé le secret. Le secret. Et c'est resté secret pendant plusieurs siècles, puisque ça n'a été traduit qu'à l'époque du grand roi Sanzangampo. Alors, ce roi, d'abord, c'est très intéressant de savoir qu'il est né en 617, il est mort en 649. Il est donc mort relativement jeune. Et il a été intronisé roi à l'âge de 13 ans. Le Tibet, à cette époque-là, était un peuple guerrier. On peut parler vraiment d'une force de frappe. Par exemple, certains analystes chinois parlent de cette cavalerie tibétaine en disant « leurs armures sont excellentes, ils s'en revêtent le corps, ne laissant de trous que pour les yeux », vous voyez déjà l'aspect de ces guerriers. « Même des arcs puissants et des lames tranchantes n'arrivent pas à leur faire grand mal », disent les Chinois. « Hommes et chevaux sont tous les deux couverts de cottes de mailles dont la fabrication est excellente ». Ça, ce sont les analystes chinois qui le disent.
Au 7e siècle.
Au 7e siècle. Et puis, le grand roi Sanzangampo se marie, donc c'était encore un roi très guerrier, il veut la fille de l'empereur de Chine, la princesse Wenchen, qui est escortée au Tibet avec tous les honneurs, et qui arrive d'ailleurs avec une statue de Bouddha, et qu'elle apporte en cadeau, de noces, enfin, entre autres choses. Et pas que ça, les Chinois ont apporté aussi le verre à soie, le papier, enfin des tas de trucs. Mais Sanzangampo, qui était un homme ardent, actif, énergique, était loin de se contenter d'une épouse, fut-elle la fille de l'empereur de Chine, il se marie aussi avec une fille du roi du Népal, la princesse Brikouti. Donc déjà, par la voie de ces alliances matrimoniales, le bouddhisme a déjà un pied dans le Tibet. Et toutes les deux vont d'ailleurs construire un temple à Lhasa. Bon, on était à ce moment-là en Inde, dans une période où les textes bouddhiques ont été écrits en sanskrit. Bon, pour les lire, il fallait les traduire. Mais pour les traduire, il fallait d'abord pouvoir les traduire dans une langue écrite. Or, que se passe-t-il? À l'époque de Sanzangampo, le Tibet n'a pas de langue écrite. Le roi dit à son ministre, Tonmi Sambhota, voilà, il faut partir en Inde, vous allez apprendre le sanskrit et vous vous débrouillez pour que nous puissions avoir une écriture en tibétain. Il faut nous faire une écriture. Alors voilà, Tonmi Sambhota qui part en Inde, il part avec 16 jeunes gens. Alors, pour vous donner une idée des difficultés du voyage, il n'y en a pas un qui va revenir, les 16 sont tous morts. Maladie, la chaleur. Tonmi Sambhota, lui, s'en sort et revient. Alors là, il entre en retraite. Il s'enferme dans un temple et il va se consacrer à sa tâche. Quelle est cette tâche? Eh bien, il va écrire 8 livres sur la grammaire et sur l'écriture. Et puis alors, non seulement ça, mais à partir de scripts, c'est-à-dire de caractères d'écriture qu'il a trouvé. Il a construit une langue écrite en essayant de faire cadrer le plus possible de règles de la grammaire sanscrite en tibétain.
Maurice Salen, est-ce qu'on peut dire que le bouddhisme, l'arrivée du bouddhisme au Tibet correspond à l'arrivée de l'écriture?
Souvenez-vous de ce livre qui était tombé entre les mains du roi Lathothori Nyensen au deuxième siècle de notre ère. Eh bien, ça va être le premier livre que va traduire Tommy Sambota. Donc on peut dire effectivement que le processus est enclenché.
Mes premiers souvenirs sont ceux d'un petit garçon en train de courir dans les vertes prairies qui entourent Dunkuk, mon village.
La véritable diffusion du bouddhisme, alors là où vraiment le Tibet devient vraiment bouddhiste, c'est sous le règne d'un autre grand roi, d'un autre très grand roi, qui s'appelle Trisong Detsen, et qui lui règnera de 755 à 797. Ce qui fait qu'il y a quand même un siècle entre Sonsen Gampo et Trisong Detsen.
Et c'est à ce moment-là que nous voyons apparaître, je crois, ce grand maître spirituel, maître indien, Padmasambhava.
Alors, Padmasambhava a une importance énorme au Tibet. Il est partout, dans tout, pratiquement tous les temples. Il a un air très fier. Enfin, c'est un personnage... tous les Tibétains ont une très grande dévotion pour Padmasambhava. C'est le né du lotus, c'est vraiment le grand personnage, c'est le grand magicien. C'était vraiment un initié qui était capable de maîtriser les forces obscures, les démons. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Alors, par tout un tas de rituels magiques, d'apostrophes, parce que pour comprendre comment Padmasambhava peut avoir subjugué ces démons, il faut par exemple avoir, lorsqu'on a l'occasion, voir comment un faiseur de pluie travaille à l'heure actuelle, en 1983, à Dharamsala. Avec cette différence que les faiseurs de pluie qui faisaient la pluie au Tibet, pays sec où il pleuvait peu, à Dharamsala auraient plutôt tendance à arrêter la pluie. Alors, si vous allez à Dharamsala, qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez un faiseur de pluie, mais qui est en fait un arrêteur de pluie. Je vous assure que j'ai assisté à une occasion à la façon dont ce sorcier, dont ce magicien, dont ce Nakpa arrête la pluie. C'est fantastique. Il est sur le toit de la maison, il vocifère à tous les angles du toit en terrasse. On a vraiment l'impression qu'il s'empoigne avec des éléments. On a l'impression qu'il les oblige, il les insulte, il leur parle fort. C'est pas du tout une petite prière tranquille, c'est un combat. Il reçoit de l'eau tant qu'il peut, parce que tant qu'il n'a pas arrêté la pluie, il pleut. Alors ce Nakpa Dharamsala, il a en particulier des lunettes, et quand ça pleut, il voit plus clair, mais ça fait rien, il fonce dans le brouillard. Et puis, bon, alors on peut dire c'est le hasard, c'est la coïncidence, etc. Mais la pluie, je l'ai vue s'arrêter. Donc, Padmasambhava va, tous ces démons qui étaient un obstacle à l'implantation du bouddhisme, il va les transformer en auxiliaires du bouddhisme. Et tous les démons, tous ceux qui peuvent mettre la main dessus, vont jurer, il leur fait promettre d'être des défenseurs du dharma. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire quand même que les choses étaient en bonne voie.
Pour le bouddhisme.
Pour le bouddhisme. Et d'ailleurs, pour sanctionner tout ça, en 791, le roi Trisong Detsen fait graver sur une stèle que le bouddhisme est la religion officielle du Tibet. En fait, ça n'est pas encore tout à fait entré dans les mœurs. Il y a des oppositions et il va y en avoir de plus en plus. Il faut tout de suite arriver au siècle suivant, c'est-à-dire aux deux derniers rois du Tibet. Les deux derniers rois sont deux frères, Ralpachen et Landarma. Alors, sur la lancée de l'époque de Trisong Detsen, disons, le bouddhisme est religion officielle, on va tout faire pour lui apporter une aide. Et Ralpachen, l'avant-dernier roi, va tellement aider le bouddhisme qu'il va exaspérer bon nombre de ses sujets, enfin au très haut niveau, de ministres, etc. Et Ralpachen va être assassiné en 836. Immédiatement, son frère aîné lui succède, Landarma, le fameux Landarma. Alors lui, à l'inverse, va au contraire persécuter le bouddhisme, enfin c'est ce que les historiens bouddhistes disent, et va surtout bloquer en fait l'expansion du bouddhisme établi, c'est-à-dire des monastères. Et alors lui, à son tour, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire aussi assassiner. Et cette fois, il va se faire assassiner, en 842, il va se faire assassiner par un moine. À partir de là, nous allons avoir une période d'un siècle et demi, période d'obscurantisme, pourrait-on dire, mais en fait, surtout une période où le Tibet, c'est la fin du Tibet royal, le Tibet va éclater. Le Tibet n'a plus d'histoire pendant un siècle et demi, jusqu'à ce que le bouddhisme reprenne vie, que des maîtres indiens viennent de l'Inde pour lui insuffler, pour lui donner un deuxième souffle, et enfin, on pourrait dire, enfin, Atishavin, le grand maître de l'université bouddhique de Vikramashila, dans le nord de l'Inde, vint en 1442, et je dois dire d'ailleurs que cette année, le Dalai Lama à Dharamsala, les Tibétains fêtent le millième anniversaire de sa naissance qui se situe environ en
982. Le soir, nous ramenions les animaux au village. Nous nous ornions, ainsi que les bêtes, de guirlandes de fleurs sauvages. Et une procession très colorée et joyeuse s'acheminait vers la maison. Notre village de Dungkuk était humble, composé d'environ 6 familles. Toutes étaient des familles nombreuses. Et il était normal pour une famille d'avoir 15 à 20 membres. Notre maison, bâtie sur le mode traditionnel, était en pierre et avait 3 étages. Parfois aussi, les maisons étaient construites en terre tassée. Tout dépendait des matériaux de construction les plus disponibles dans la région.
L'histoire continue, l'histoire se déroule au Tibet, l'histoire du bouddhisme se déroule, et le Tibet, disons, perd de son agressivité, perd de sa puissance. Les monastères se développent, le bouddhisme fleurit, et on a l'impression que les Tibétains maintenant s'intéressent plus à la métaphysique qu'à la guerre. C'est peut-être bien d'un certain côté, mais sur le plan politique, ça a des retombées, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus faibles, et ils deviennent la proie d'autres pays. Alors, qui prend la relève des Tibétains? Ça va être, dans un premier temps, les Mongols, au XIIIe siècle. Les Mongols, même système, même race d'abord, à peu près, cavalerie, etc., etc. On recommence. Alors, les Mongols deviennent très menaçants, et le Tibet a failli passer sous contrôle mongol et disparaître. Mais heureusement que les Mongols, étant dans le fond les frères des Tibétains, ont un peu les mêmes structures mentales et sont aussi intéressés à la métaphysique qu'eux et à la mystique. Et alors, les Mongols se sont dit, bon, d'accord, on va conquérir le Tibet, mais c'est intéressant quand même, ces lamas, ce bouddhisme, le côté magique, les lamas étaient très forts aussi, vous savez, il y a eu des joutes de magiciens devant les camps mongols, très intéressantes, où on demandait à des lamas de faire des prodiges. Et on jugeait lequel en avait fait le plus et le meilleur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, là il va y avoir une réaction politique sensationnelle, c'est-à-dire que le petit-fils de Gengis Khan, Godan, le prince Godan, bon, il est intéressé par le bouddhisme, ses lamas, là, pour lui c'est quelque chose d'assez mystérieux. Il essaie de savoir quel est le plus grand lama au Tibet. Alors, de partout lui viennent des renseignements, et on lui dit le plus grand c'est Sakya Pandita, un très grand lama d'un très haut niveau, etc. Alors il lui écrit une lettre, Sakya Pandita, qui était donc de l'école Sakya, c'est une des écoles qui à cette époque-là était florissante, et il dit voilà, je vous prie de bien vouloir venir, je vous invite à venir à mon camp, à ma cour, pour que vous nous expliquiez, vous nous exposiez, vous nous instruisiez mon peuple dans le bouddhisme. Et Sakya Pandita a eu le bon réflexe. Il a tout de suite compris que le sort du Tibet allait se jouer sur sa réponse et il a accepté. Et il est parti rencontrer le prince Godan. Et il a d'ailleurs écrit très vite aux Tibétains qui d'ailleurs voulaient le voir revenir, il dit non, la situation est trop sérieuse, je reste, car c'est comme ça que nous aurons la paix. Ne faites rien, surtout, parce que vous seriez immanquablement battus. Et lui est resté à la cour de Godan. Et il les a subjugués, moralement. Il les a convertis au bouddhisme et il en a fait les alliés les plus précieux du Tibet. Alors, c'est là que se sont établis ces fameux liens que l'on appelle des liens de maître spirituel, de maître spirituel à protecteur. C'est-à-dire que les Mongols vont assurer la protection et la défense du territoire tibétain, l'intégrité du territoire tibétain, ne vont pas gouverner le Tibet, il ne s'agit pas de ça. Et en échange, et sur un pied d'égalité, les Tibétains vont assurer l'instruction religieuse des Mongols.
Now please repeat after me.
Répétez après moi.
Om Muni Muni.
Om Muni Muni.
Ma Muni.
Ma Muni.
Shakya Muni Soha.
Shakya Muni Soha.
Om Muni Muni.
Om Muni Muni.
Ma Muni.
Ma Muni.
Shakya Muni Soha.
Shakya Muni Soha.
Om Muni Muni.
Om Muni Muni.
Ma Muni.
Ma Muni.
Shakya Muni Soha.
Dakpo Rinpoche, avant votre exil, vous étiez moine au Tibet. Aujourd'hui, vous enseignez le tibétain à l'Institut national des langues orientales. Alors, comment a débuté l'histoire des Dalai Lama au Tibet?
Nous considérons le premier Dalai Lama était Kyindrup, qui était un des disciples de Tsongkhapa, c'est-à-dire le fondateur École Gelug. Donc, il est né 1391. Il a fondé aussi un grand monastère qui s'appelle Tashilhumbu, qui est très connu en France. Mais il ne possède pas titre de Dalai Lama. Le titre de Dalai Lama a été décerné par l'empereur mongol Adan Khan au maître Sonam Gyatso, né 1543. C'est-à-dire qu'il est troisième successeur de Kyindrupa.
Il est dit que les 14 Dalai Lamas qui se sont succédés au Tibet sont en réalité le continuum d'un seul et même esprit, c'est-à-dire que ce sont des réincarnations successives. Donc le troisième Dalai Lama, considéré comme étant officiellement le premier, était déjà la réincarnation du premier Dalai Lama.
Oui, absolument. Oui.
C'est ça.
Vous savez, pour nous, le Dalai Lama, c'est, disons, un être plutôt selon le bouddhisme. Nous considérons l'incarnation de Bouddha de compassion. Alors, le Bouddha de compassion qui a manifesté sous la forme humaine pour aider des êtres, donc nous considérons comme un être parfait ou bien Bouddha. Mais évidemment, jusqu'à maintenant, il y a eu 14 Dalai Lama, mais ils ont tous la même continuation, comme vous venez de dire.
Alors, les Chinois vont baser leurs revendications politiques sur le Tibet sur cette relation de maître spirituel à protecteur. C'est-à-dire que cette relation a d'abord été établie entre les Mongols et les Tibétains. Bien. Mais les Mongols vont devenir empereurs de Chine. Ils vont fonder une dynastie, les Yuan. Donc, cette relation va continuer avec les Mongols, mais les Mongols entre parenthèses, devenu empereur de Chine. Mais pour les Tibétains, ça n'est pas une relation qu'ils ont établie avec l'empereur de Chine, ça reste une relation spécifique avec les Mongols. Alors, les Chinois disent actuellement, ils disent, ben vous voyez bien, les Tibétains ont établi une relation avec l'empereur de Chine, une relation de suzeraineté, il y avait un échange de cadeaux. Et tout le monde sait que Vovnargue l'a dit, d'ailleurs, que l'échange de cadeaux n'est pas aussi désintéressé qu'il y paraît. Lorsque la dynastie Yuan s'est effondrée au XIVe siècle, les Chinois, comme les Tibétains, ont repris leur liberté. C'est-à-dire que les Chinois en avaient assez de la domination mongole, et les Tibétains n'étaient pas fâchés de reprendre leur liberté. Il y a eu donc, après la dynastie Yuan, il y a eu les Ming. Alors, les Ming se sont pratiquement pas occupés du Tibet. Ce n'est qu'à l'époque de la dynastie Manchu, et particulièrement au XVIIIe siècle, alors là, la pression chinoise s'est fait de plus en plus forte et qu'ils ont voulu rétablir le plus possible des liens de suzeraineté. Mais si vous voulez, à la limite, l'habitant tibétain de l'est du Kham, il voyait bien des Chinois passer de temps en temps, mais il ne s'est jamais considéré comme sujet chinois, il n'a jamais payé d'impôts à l'empereur de Chine, il se considérait comme tibétain.
Pendant son adolescence, mon père s'était rendu à Lhasa comme domestique d'un moine membre du gouvernement, Dakpa Kalden. Il avait étudié là-bas pendant des années. Et c'est un érudit, si l'on peut dire, qui revint au Nyarong, notre province. Il avait une belle écriture, ce qui est de rigueur dans la scolastique tibétaine. Et quand dans le district il était question de rédiger les brouillons de lettres officielles et de documents juridiques, il n'avait pas son pareil.
Rinpoche veut dire littéralement cher ou bien précieux. Rinpoche, simplement, c'est une sorte de titre. Donc, peut-être ça ne veut pas dire grand-chose, mais ce titre donne pour des personnes, des maîtres aux maîtres, ou bien des personnes qui sont reconnues comme réincarnation d'un grand maître, ou bien simplement des personnes qui, un grand personnage, qui porte ce titre aussi.
Et vous-même, Dakpo Rinpoche, vous êtes la réincarnation d'un maître bouddhiste ?
On dit, oui, j'ai été reconnu comme réincarnation d'un grand maître du Tibet, si vous voulez.
Lors de son passage à Paris, sa sainteté a bien voulu répondre à nos questions. Olivier Germain-Thomas.
Vous avez dit, votre sainteté, que si la science vous prouvait que la réincarnation n'existait pas, vous seriez prêt à l'admettre.
Moi, j'entendais...
Je crois que la science est une contribution extrêmement valable. Et donc, si la science pouvait prouver avec certitude que la réincarnation n'existe pas, à ce moment-là, je serais tout à fait prêt, en tant que bouddhiste, à l'admettre. Et en tant que bouddhiste, je devrais l'admettre. Pourquoi ? Le Bouddha lui-même a déclaré que lorsque nous acceptons une idée, il ne faut pas le faire sur la base du simple respect, mais il faut le faire après une longue analyse, une longue réflexion qui nous amène à la compréhension, à la certitude que les choses demeurent ainsi. Il faut faire une différence entre le fait que les scientifiques, lorsqu'ils recherchent quelque chose, peuvent ne pas le trouver, et le fait de trouver que quelque chose n'existe pas. Ce sont là deux choses très différentes. Il faut les distinguer très clairement. Si la science, par conséquent, nous prouve que la réincarnation n'existe pas, certainement je l'accepterai. Mais cela est très différent du fait de ne pas trouver la réincarnation lorsqu'on la cherche.
Yves Jégu ?
J'avais compris, en lisant par exemple des livres comme le livre des morts tibétains, Bardo Todol, que la réincarnation était... dans l'esprit des bouddhistes, le fruit, le résultat d'une méthode visionnaire de connaissance et non pas d'une méthode analytique ou conceptuelle comme celle des savants. Et que, par conséquent, si les bouddhistes croient à la réincarnation, c'est parce qu'ils le voient, ils le visionnent et ils en ont des preuves spirituelles.
Lorsqu'on parle d'objets qui existent ou qui n'existent pas, que veut dire ce mot « exister » ? dans le bouddhisme, exister veut dire être perçu par un perceveur correct. Maintenant, pour déterminer ce qu'est un perceveur correct, il nous faut parfois avoir recours à une perception inférentielle, en dépendance de laquelle nous pouvons savoir si quelque chose existe ou n'existe pas. Or, cette perception inférentielle est basée sur certaines expériences. Vous avez mentionné le bardo todol. Dans le cas du bardo todol, de nombreuses expériences sont décrites. Dans le bouddhisme, lorsqu'on parle de perceveur, de conscience, il faut comprendre qu'il y a différents niveaux de subtilité de ces consciences. Or, les expériences décrites dans le bardo todol et ressenties par les personnes à travers tous ces stades sont des indications qui nous aident à inférer les différents degrés de subtilité de la conscience et peut-être aussi les réincarnations. Il faut également comprendre que les expériences du bardo todol sont particulières. Ce ne sont pas des expériences que tout un chacun peut rencontrer au cours de ces stades. Il s'agit de la description d'une pratique qui est faite et qui a été développée par le yogin lui-même au cours de sa vie. Et lorsqu'il passe par ces stades, ces pratiques sont répétées. Et c'est à ce moment-là que ces expériences se passent. Je me réfère ici à l'apparition de déités paisibles et irritées.
Dakpo Rinpoche, il y a une chose que j'aimerais que vous me précisiez par rapport à la réincarnation. Tous ces 14 Dalai Lama sont des gens qui ont atteint l'esprit de l'éveil, qui sont la réincarnation du Bouddha de la compassion. Ce sont donc des gens qui ont fait le choix de revenir sur Terre pour prêcher l'humanité. Sans cela, en principe, la réincarnation est en réalité une sorte d'épreuve que l'homme doit traverser jusqu'à ce qu'il atteigne l'esprit de l'éveil.
C'est ça, oui.
Par conséquent, vous-même, Dakpo Rinpoche, vous qui êtes la réincarnation d'un maître spirituel, êtes-vous la réincarnation d'un maître spirituel qui vient prêcher l'humanité ou est-ce encore une épreuve pour vous? Comment
vous
le vivez-vous?
Je pense, je suis reconnu comme l'incarnation d'un maître, mais personnellement, je ne prétends pas vraiment, je ne sais pas, je ne prétends pas vraiment quelque chose d'authentique. Mais dans cette histoire de reconnaissance d'un maître ou bien de réincarnation, il y a différentes sortes, ça se passe, différentes choses, si vous voulez. Il y a certaines, la plupart des personnes qui sont reconnues comme réincarnation d'un maître sont justes. Mais je pense, sûrement, il y a, de temps en temps, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, par exemple. Je pense que c'est possible.
Vous pensez que l'on peut se tromper?
Je pense, c'est possible.
Comment reconnaît-on la réincarnation d'un maître spirituel, comme dans votre cas?
Il y a plusieurs méthodes. Première chose à faire, c'est qu'il faut déterminer la direction ou bien le lieu où on doit chercher. Comment on détermine cette direction? Souvent, le maître qui est décédé, il laisse souvent le testament. Il dit « je renaîtrai dans telle direction », par exemple. Donc ensuite, les gens vont dans cette direction, il fait réunir tous les jeunes gens qui sont nés à cette époque. Alors ensuite, il leur présente des objets, différents objets, par exemple plusieurs bols, parmi lesquels il y a un bol qui appartient au maître
décédé.
Donc, à ce moment-là, si une personne qui peut choisir sans se tromper 3-4 fois, à ce moment-là, on considère cette personne est la réincarnation de ce maître. C'est une chose.
Vous vous souvenez vous-même de ces tests que l'on vous a fait passer?
Non, je pense que je n'ai pas passé par ce chemin. Il y a d'autres méthodes, c'est-à-dire aussi il y a un grand maître qui peut choisir directement la réincarnation. Mon cas, c'est-à-dire j'ai été choisi comme réincarnation de ce maître par le 13e Dalai Lama, c'est-à-dire le prédécesseur de ce Dalai Lama.
Et à quoi vous a-t-il reconnu?
Ça, je ne sais pas.
Est-ce que vous aviez, très jeune, des prédispositions?
C'est difficile de répondre à cette question, parce que ça concerne de moi-même. Mais quand même, si je vous dis donc ce que je pense, je ne sais pas vraiment, j'ai quelque chose de spirituel, mais quand même, j'ai eu beaucoup de facilité, si vous voulez, j'ai eu dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance, aussi beaucoup de facilité pour, dans beaucoup de domaines. Donc, je ne sais pas, c'est assez clair ou non, cette...
Vous pensez que cette chance est une sorte de signe?
Je ne peux pas vraiment dire c'est une sorte de signe, mais quand même, quelque chose de bien, bon.
Vous avez été fait moine tout de suite après que l'on vous ait découvert comme étant la réincarnation de ce maître spirituel?
Pas tout de suite, je pense pour ordonner quelqu'un, ordonner moine, il faut attendre jusqu'à un certain âge, c'est-à-dire l'âge 8 ans.
Et à 8 ans, vous avez été
voilà, moine? j'ai été ordonné, c'est ça, j'ai été ordonné à l'âge 8 ans.
À Lhasa?
Pas tout à fait à Lhasa, dans l'est de Lhasa, dans une autre région, dans la région de Thakpo. Pour ça, je m'appelle Thakpo Rinpoche, c'est un... Thakpo, c'est un nom d'une région où il y a le monastère.
Frère cadet, Pema Namgyal, que nous appelions affectueusement Aben, se fit moine, lui aussi, dès son plus jeune âge, et fut reconnu comme Tulku, c'est-à-dire l'incarnation d'un saint, d'un ascète ou d'un grand lama. C'était un garçon délicat, beau et très intelligent. Et nous ne fûmes pas surpris quand on le déclara être la réincarnation du grand Chandi Rinpoche. Je l'aimais beaucoup. Et nous nous entendions comme larrons en foire, surtout quand il s'agissait de faire un mauvais coup. Je me sentis plutôt seul le jour où une procession de moines l'emmena au monastère de Chandi, ou Nœud de Fer, perché sur un plateau à 3 heures environ de mon village. C'est là qu'il allait commencer son éducation et sa formation en vue d'une vocation propice. Malgré ma tristesse de le voir partir, je l'enviais plutôt.
J'ai vécu assez longtemps à Lhasa. À peu près 6 ans, j'ai vécu à Lhasa.
Pour vos études?
Pour mes études aussi, oui.
En tant que moine?
Oui, oui. C'est une partie de ma vie plus agréable, plus intéressante, je pense. Je garde très très bons souvenirs. À cette époque-là, ce que je faisais uniquement, je n'ai pas d'autre chose à m'occuper, simplement mes études et la pratique, si vous voulez. Dans la philosophie bouddhiste, plutôt, on explique comment on doit s'améliorer soi-même. Donc, le travail, finalement, c'est une sorte de travail personnel.
Et permanent.
Permanent. Il faut travailler jusqu'à atteindre l'état de Bouddha, l'obtention de l'état de Bouddha. Près de Lhasa, j'ai été dans un des plus grands monastères tibétains, s'appelle Drepung. À cette époque-là, il y avait 7000 moines. 7000 moines.
On est Bouddha, on est parfait, on est omniscient. Or, il semble que le Seigneur Bouddha émet des doutes quant à la connaissance qu'il projette. Alors, il y a une contradiction.
Pour moi, je vois les choses différemment. C'est parce qu'il est omniscient qu'il procède ainsi. S'il disait simplement « les choses sont comme ci ou comme ça », les gens auraient des doutes. Il leur serait beaucoup plus difficile d'accéder à la compréhension. Mais au contraire, s'ils procèdent avec leurs propres investigations, il leur sera beaucoup plus facile d'arriver à une certitude. Une certitude également plus stable. Comme le Bouddha est omniscient, il sait que cela est plus facile. Et c'est donc pour cela qu'il procède de cette façon. On a posé au Bouddha 14 questions auxquelles il a refusé de répondre. Certaines personnes disent, puisqu'il a refusé de répondre, c'est qu'il ne pouvait pas répondre. Mais Nagarjuna, un grand maître indien, répondit, « Non, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas répondre, mais c'est qu'il comprit que répondre à ces questions ne servirait à rien et que la meilleure façon de faire face à cette situation était de ne pas y répondre. » Par conséquent, c'était un signe, au contraire, de son omniscience. Et je vous réponds de la même façon.
La particularité de l'Hassa, quel qu'il soit de personne, de leur origine, de leur croyance, dès qu'il arrive à l'Hassa, il ressentit la joie d'une manière spontanée. Ça se produit chez toutes les personnes qui sont allées à l'Hassa. Je pense parce que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de personnes spirituelles, je pense, qui vivaient depuis le 7e siècle, sans arrêt jusqu'à maintenant même, je pense.
Lhasa est considéré par les Tibétains comme étant une ville sacrée.
Oui, absolument, absolument. Pour nous, quand on dit une ville sacrée, c'est-à-dire une ville où grands personnages qui ont vécu, il y a eu des mouvements spirituels, religieux, etc. Pour ça, on dit que la ville devient sacrée, si vous voulez.
À part les monastères, il n'y avait pas de véritable école dans le Nyarong. Aussi, mon père se chargea-t-il lui-même de mon éducation et de celle de mes frères. Suivant la coutume du Tibet, il nous enseigna d'abord une invocation à la divinité. Sublime déité de la sagesse, Champelyang. Et il nous fallut aussi répéter de nombreuses fois le saint mantra de Champelyang, Om Arapat Sanadi. On nous apprit d'abord à écrire sur des planchettes de bois l'alphabet sacré, et plus tard à lire des textes religieux et des ouvrages de grammaire et de poésie. On nous enseigna aussi l'histoire du Tibet et les maximes et les dictons pleins de sagesse de notre peuple.
Les ignorants sont vaniteux, les vrais sages sont humbles. Les ruisseaux bavards sont bruyants, mais l'océan est calme. Dakpo Rinpoche, il y a dans votre vie, vous Tibétains, bouddhistes, des phrases sacrées, des mantras qui sont inscrits et répétés partout, comme cette phrase « Om Mane Padme Hum ».
Partout, on voit sur la montagne, même sur le rocher, ce mantra. Je pense que tous les Tibétains récitent, disons, la majorité, ils récitent ce mantra. Simplement, ce mantra, c'est quelque chose, mantra de Bouddha de compassion, n'est-ce pas? Donc pour le Tibétain, c'est un phénomène assez curieux qui se passe à propos de ce mantra. C'est-à-dire quand le petit enfant, n'est-ce pas, lorsqu'il commence à parler, il récite ce mantra sans avoir appris. Peut-être à cause de l'influence des parents ou je ne sais pas exactement, mais ça arrive automatiquement.
Là, le meaning de l'étranger.
Il y a deux sens à cette phrase, un sens littéral et un sens plus profond. Le sens littéral se réfère aux deux objets que le Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara, tient dans ses mains, le rosaire, c'est-à-dire le joyau, et le lotus. Par conséquent, le sens littéral, c'est tenir le joyau et le lotus. Maintenant, en ce qui concerne le sens plus profond, le premier mot, c'est « om ». Et « om » est composé de trois lettres, A, U, M, « om ». Et ces trois lettres représentent le corps, la parole et l'esprit, qui peuvent être impurs, comme les nôtres, ou qui peuvent être purs. Le fait que ce que nous appelons ces trois portes, c'est-à-dire corps, parole, esprit, soit pur ou impur, cela se déroule sur la base de la continuité de la conscience. Tous les êtres existent et nous existons sur la base de cette continuité. Et lorsque cette continuité de la conscience se purifie, lorsque les différents obstacles sont éliminés, nos trois portes deviennent de plus en plus pures, jusqu'à se transformer dans les trois portes d'un être parfait, un Bouddha. Maintenant, comment accomplir ce processus de purification? La réponse est Mané et Padmé, c'est-à-dire le joyau et le lotus qui représentent la méthode et la sagesse. La méthode, c'est l'esprit de l'éveil, dont la racine sont l'amour et la compassion. La sagesse, c'est principalement la compréhension de la façon dont les phénomènes existent. Le dernier mot, c'est « oum ». Et « oum » signifie l'indiscernabilité, l'union, la fusion de la méthode et de la sagesse qui doivent être unies en une seule pratique, qui doivent être présents en une seule réalisation.
Oh, pronunciation. Om mani padme hum.
C'est la façon dont on le prononce. Mais ce n'est sans doute pas la prononciation correcte, car c'est la prononciation que nous, Tibétains, avons adoptée, mais la prononciation sanscrite est sans doute différente.
En principe, en répétant ce mantra, il faut essayer d'éprouver la compassion pour tous les êtres.
Ma mère était une femme très religieuse. Tout en travaillant, elle murmurait des prières et elle donnait généreusement à tous les mendiants et à tous les pèlerins qui s'arrêtaient chez nous. Je me souviens de ces sombres et froides nuits d'hiver pendant lesquelles les loups hurlaient à la mort dans la neige. Je me réveillais tout effrayé et terrorisé, je courais me réfugier en larmes dans le lit de ma mère. La croyance voulait que le hurlement d'un loup porte malheur. Alors ma mère annonçait à chaque fois, avec solennité,
jette de la poussière dans la gueule du loup et enfonce-lui une pointe dans l'œil.
Cette incantation écartait, paraît-il, le mauvais sort. Puis elle me serrait dans ses bras sous les couvertures et fredonnait une vieille chanson populaire.
Sur les hautes cimes enneigées joue le petit lionceau. Ô vous, montagne, je vous en prie, soyez clémente jusqu'à ce que la crinière du lionceau ait poussé.
Pema et Tinle vivent en France depuis 1961. La visite du Dalai Lama à Paris au mois d'octobre 1982 reste encore gravée dans leur mémoire. Aujourd'hui, ils feuillettent et commentent l'album de photos qu'ils ont entièrement consacré à ces quelques jours, pour eux, inoubliables.
Pour nous, les Tibétains, c'est avant tout... notre chef spirituel et temporel. Et je pense que c'est très important pour tout le monde parce qu'il est porteur d'un message. Et quelqu'un qui apporte la sagesse, je trouve que ça, c'est très important.
Il semble qu'il y ait un désir de conscience planétaire de plus en plus fort et qui se développe, en tout cas en Occident. Comment analysez-vous ce désir,
de conscience planétaire par rapport à l'évolution des choses.
That is the, one of my, how to say, main objects. Now you see, in ancient time, the people.
Ceci est un de mes objets d'intérêt principaux.
A small community remain.
Autrefois, les petites communautés pouvaient vivre de façon pratiquement indépendante et complètement isolées. Cette période est totalement révolue. La personne la plus égoïste, la communauté la plus égoïste, a besoin pour vivre de dépendre des autres communautés. Pour vivre, les personnes ont besoin des autres personnes. Même sur le plan économique, regardez. Malgré les différences idéologiques, malgré le fait que ces différents pays appartiennent à des blocs militaires différents et opposés, une coopération des relations doit s'établir. Le meilleur exemple est ce fameux projet de pipeline amenant le gaz d'Union soviétique en Europe de l'Ouest. Cela montre que malgré toutes ces différences, nous avons besoin des uns des autres pour survivre, pour que l'humanité survive. Et cela est très important. Il faut qu'il y ait cette claire compréhension en chacun de l'unité de l'humanité. Nous sommes tous semblables. Nous sommes tous identiques, et ceci est très important. Si les gens qui vivent dans les pays occidentaux regardent les communistes de l'Est comme des diables, cela est faux. Si les gens de l'autre côté ont la même attitude vis-à-vis des capitalistes, cela est faux. Par conséquent, voyez-vous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous frères et sœurs. Il est très important que tout le monde comprenne bien que nous sommes tous identiques, que nous sommes tous identiquement des êtres humains. Les autres hommes sont nos frères et nos sœurs, et donc, je pense qu'il est extrêmement important que nous comprenions bien l'unité de l'humanité et développions ce sentiment de responsabilité universelle. Les différences de foi, les différences politiques, tout cela est secondaire.
Bien sûr, c'est notre chef spirituel et temporel, mais c'est aussi, pour les Tibétains, l'émanation de Jianzi. C'est le Bouddha de la compassion. Également, en exil, pour nous, les Tibétains, c'est notre symbole. C'est la seule personne qui puisse réunir tous les réfugiés tibétains qui sont exilés un peu partout dans le monde.
Sa sainteté pour nous, enfin pour tous les Tibétains, représente l'unité tibétaine. Et c'est par sa personne qu'on peut espérer peut-être un jour retourner au Tibet.
Je me considère moi-même comme un simple moine bouddhiste, parce que je suis un moine bouddhiste. Et de ce fait, personne ne peut le changer. Cela dépend de moi-même. Je suis un moine bouddhiste et cela est ma propre affaire. Personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut m'élever ou m'abaisser sur ce point.
Mes parents sont de Kham, donc c'est une région qui se trouve à l'est du Tibet. Et je pense qu'ils ont dû partir au moment de l'invasion de Kham par les Chinois. Ils ont dû quitter le Kham pour aller plus au centre, du côté de Lhasa, disons les grandes villes Shigatse et Yangtze.
Ça, ils ont été poussés, donc.
C'est ça, oui. Oui, oui. Au départ, les Chinoises étaient très sympathiques, très gentilles. Ils vous apportaient des cadeaux. Mais par la suite, ils devenaient de plus en plus exigeants et la répression commençait à s'annoncer du côté de Kham.
Quand vos parents ont quitté Kham, vous aviez quel âge ?
4 ans, 5 ans.
C'était vers quelle année ? 56 ?
Oui, oui. Puis après, on est allé du côté de Shigatse.
Vous alliez à l'école ?
Non, je n'ai pas de souvenir d'avoir été à l'école. J'ai surtout le souvenir d'avoir beaucoup joué. J'avais pas beaucoup de jeux, disons. Il n'y avait pas beaucoup de jeux. Il n'y avait pas des jeux tout faits comme ici, en Occident. Mais on inventait des jeux. Puis on avait aussi quelques jeux tibétains. On jouait beaucoup aussi à la fronde.
Vos parents gagnaient leur vie comment à cette époque?
Ma mère ne travaillait pas, mais mon père, je crois qu'il faisait du commerce dans les médicaments. Je ne sais pas comment l'appeler, peut-être un espèce de pharmacien, herboriste ou quelque chose comme ça.
Au premier temps de l'invasion, les Chinois ne cessaient de répéter avec véhémence que non seulement ils respectaient la liberté de religion, mais encore ils l'appuyaient. Ils traitaient avec affabilité les lamas et les personnages religieux importants et allaient jusqu'à affirmer que le Bouddha était un authentique héros du prolétariat puisqu'il avait renoncé à sa royauté et à sa richesse. Ils commencèrent à changer d'attitude avec l'introduction des réformes démocratiques en 1956. À partir de là, chaque communiqué du parti marqua une opposition graduelle au monastère, jusqu'à devenir franchement hostile à la religion. La liberté de religion doit être respectée, mais les monastères doivent conclure toutes les transactions de prêt avec les gens et ne plus prêter d'argent. Les gens peuvent rembourser leurs emprunts au monastère de leur plein gré, mais les monastères ne doivent exiger aucun paiement. Les gens ne doivent pas rembourser leurs emprunts au monastère. Tous les emprunts seront réglés par le gouvernement du peuple.
Et ma mère avait entendu dire par ses voisins que les Chinois collectaient tous les jeunes enfants, disons des enfants en bas âge, et ils les mettaient dans un camion et puis ils les transportaient à Pékin pour faire l'éducation, tout ça. Et quand elle a su ça, elle m'a caché, parce que mon frère était trop jeune pour l'embarquer. Alors elle m'a caché, puis on a attendu la nuit pour quitter la ville. Et on est parti sans rien du tout, sans bagage, sans rien. Puis comme ma mère était seule avec deux enfants, il y avait nos voisins qui nous ont aidés à quitter la ville. Alors après, le voyage était très très long.
Les moines se réunirent en secret pour aviser de ce qu'il y avait lieu de faire. Un moine originaire de ma province exprima tout haut ses intentions. Nous avons assisté à de terribles actes sacrilèges et blasphématoires, avec beaucoup de force d'âme, mais d'aucuns diraient avec une grande lâcheté. Maintenant, les Chinois veulent que nous dénoncions nos lamas, ceux-là même qui nous ont enseigné la loi, qui nous ont donné les précieuses initiations et qui nous ont transmis les enseignements sacrés du bouddhisme. Je ne sais quelles sont vos intentions à vous tous, mais personnellement, jamais je ne les dénoncerai. Que je meure un millier de fois, et que je rôtisse dans un millier d'enfers, avant de pouvoir seulement envisager un acte aussi terrible.
Bon, moi, je marchais à cette époque, mais mon frère était attaché à un cheval. Je sais pas, on devait faire plusieurs kilomètres par jour et on s'arrêtait pour camper, pour manger, et puis après, on repartait. Comme il n'y avait pas de chemin, de route tracée, alors c'était des petits sentiers sur le versant des montagnes. On ne pouvait pas passer à deux sur le même sentier. Donc, on était tous en file indien, tu vois. Bon, comme c'était les sentiers, c'était sur des flancs de montagne et... L'autre côté, c'est le ravin, c'est le vide. Et puis, tout au fond de la vallée, il y avait une petite rivière qui coulait. Et c'était très dangereux, je crois, parce qu'il y avait eu beaucoup de chevaux, de gens, de personnes qui sont tombées.
La vallée était très large et verdoyante, couverte d'une herbe grasse. En regardant l'ouest, le terrain s'élevait en pente douce. C'était magnifique. On voyait au loin le bleu azur d'un lac et le blanc laiteux du second. Le soleil déclinait lentement et en grossissant devenait rouge feu. Je pouvais toutefois le fixer sans me brûler les yeux. Sur l'horizon embrasé se détachait la sombre silhouette d'un vol de grues qui brisaient de leurs appels vespéraux le silence infini des hauts plateaux.
Nous sommes arrivés au Népal, puis à Katmandou. Une fois arrivés là, nous avons pu respirer. Et c'est à ce moment-là, il y a d'autres réfugiés tibétains qui sont arrivés par la suite. Puis il y avait eu aussi des membres de l'organisation, on appelle Chushi Ganju. C'est une organisation de résistance. Ça s'appelle 4 fleuves et 6 montagnes. Et ce sont ces maquisards qui nous ont appris, disons à ma mère, que mon père a été tué par les Chinois et voilà.
Les 4 fleuves, 6 montagnes étaient un réseau de résistance mis sur pied dès 1958 à Drigoutang, dans le Loka, au sud de Lhasa. Ce mouvement était directement issu de la première et sanglante révolte de 1956 que les Chinois ne réussirent à contrôler qu'après une suite de représailles draconiennes et le bombardement inconsidéré de nombreux villages et monastères. Le mouvement était principalement constitué de guérilleros et de réfugiés du Kham qui s'étaient enfuis au Tibet central après 1956. À cause du nombre croissant des réfugiés et des guérilleros à Lhasa et de leurs récits terrifiants sur les Tamzing, les tortures, les viols, les exécutions et la destruction de la religion, les esprits s'étaient embrasés et avaient répandu le feu de la révolte. La grande insurrection de mars 1959 et la fuite de Sa Sainteté en furent les conséquences directes. Le Dalaï Lama fut conduit en Inde sain et sauf par les résistants. Ce fut leur tâche suprême, car si Sa Sainteté n'avait pu se rendre en Inde, le mouvement national tibétain aurait certainement pris fin. Nous décidâmes d'aller en Inde et choisîmes un chemin passant par le Tibet occidental et la frontière népalaise.
Vous prêchez l'amour et la compassion, même pour les Chinois. Est-ce que vous pensez que l'amour peut combattre les puissances que nous connaissons dans ce monde?
I believe. You see the external.
Oui, je le crois.
Weapon and power of
les pouvoirs extérieurs, tels que les armes, etc., sont peut-être dans l'immédiat très efficaces, mais à long terme, le pouvoir de la volonté humaine est de loin le plus fort. Maintenant, cette volonté intérieure doit être basée sur une compréhension correcte des choses. Il faut qu'elle soit également basée sur l'amour des autres, car une volonté qui ne serait basée que sur la haine ou que sur les émotions ne peut demeurer assez ferme pour durer longtemps. Par conséquent, voyez-vous, cette alliance de la compréhension et de l'amour est très importante. C'est la base même du développement d'une volonté durable.
Nous avons su qu'il y avait une école de cré à Dharamsala par sa sainteté. Et c'est la première chose qu'il a fait pour les réfugiés. Parce que au Tibet, comme la culture était complètement détruite, alors il fallait à tout prix réserver notre culture. Donc quand ma mère a su qu'il y avait cette école, elle m'a tout de suite mis dans cette école.
Et c'est là que vous avez rencontré Tinley.
Voilà, c'est cela, oui.
Tinley, votre histoire ressemble un petit peu à celle de Pema?
Oui, à peu près. Oui, ça ressemble un peu. C'est-à-dire que mon père, il faisait partie de la résistance tibétaine. Hein, et c'est eux qui ont créé la résistance tibétaine. Et mon père, si je peux dire, un des trois capitaines de la résistance tibétaine. Et il nous a laissés avec ma mère et mes deux sœurs. Nous étions toutes petites. Et quand il est parti, ma mère, elle était très très malade, mais il ne pouvait pas faire autrement. Et lorsque mon père a rejoint la résistance tibétaine, il nous a écrit une lettre en disant qu'il faut absolument que vous partiez du Tibet parce que ça devient très dangereux. Et à la fin elle a décidé de partir, mais avec un moine tibétain qui partait également. Et ils nous ont accompagnés. Mais on a entendu que mon père était recherché à Lhasa, dans tout le Lhasa, et que si jamais les Chinois l'attrapaient, on va le tuer d'une façon atroce. Et ils nous ont montré comme exemple un monsieur qui s'appelait le même nom que mon père. Ils ont retrouvé cette personne. Ils ont attrapé, attaché à deux camions différents et les camions à des directions différentes. Ils tiraient les bras et les jambes dans les deux sens, écartés. Et lorsque ma mère a vu cette scène, elle a eu très très peur que si jamais mon père revenait nous chercher, et ça va, il va subir le même sort. C'est pourquoi ma mère avait décidé de partir malgré qu'elle était très très malade, de quitter Lhasa. Et nous sommes partis le soir en disant à nos amis qu'on allait pique-niquer pour le lendemain matin et qu'on se préparait d'avance comme ça. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de espions chinois dans Lhasa et que si jamais on disait qu'on partait réellement, ils savent que mon père est recherché, ils vont prendre en otage. Donc on est parti le soir même. Enfin, personnellement, je ne me souviens pas très bien, mais ma mère me disait que c'était dans des conditions très, très difficiles parce qu'il faut traverser des montagnes et tout, avoir un enfant derrière le dos attaché et l'autre nous étions trois. Ma sœur qui est en Inde et celle qui est déjà actuellement aux États-Unis, nous étions trois, donc c'était des conditions très difficiles.
Considérez-vous que votre exil se situe dans l'ordre des choses et qu'il est d'une certaine façon l'expression d'une nécessité universelle qui serait peut-être de répandre votre connaissance à travers le monde?
Il y a un proverbe tibétain qui dit « Transformer les mauvaises conditions en conditions favorables ». Nous avons rencontré des difficultés et le mieux dans ces cas-là, c'est d'en faire le meilleur usage possible. Par conséquent, c'est de cette façon que les choses se sont passées.
Quand cette école a été créée à Dharamsala, nous avons, le gouvernement tibétain qui est en exil toujours à Dharamsala, a demandé de l'aide un peu partout aux pays occidentaux. La Suisse en a accueilli beaucoup de jeunes, l'Angleterre, l'Allemagne. Puis le gouvernement français a bien voulu accueillir une vingtaine d'enfants. Et Tinley et moi, nous faisions partie de ce groupe qui devait partir pour la France. Nous étions en tout 10 garçons, 10 filles, plus un couple tuteur qui jouait un peu le rôle des parents et de professeurs. Et c'est comme ça qu'on a gardé notre culture, parce que tous les soirs, après les cours de français, on avait des cours de tibétain.
Par conséquent, vous alliez dans une école française la journée, vous étiez très jeune quand vous êtes arrivé, vous aviez quoi, 6 ans l'un et l'autre, 7 et 6 ans?
C'est ça.
Et le soir, vous aviez encore en plus des cours de tibétain.
Oui, nous avions encore des cours de tibétain, plus 1h30 de prière et de méditation et tout ça. Et c'était très très difficile parce qu'on se levait le matin, on ne pouvait pas tout faire les devoirs le soir, donc on se levait le matin très tôt pour rattraper les devoirs qui n'étaient pas faits le soir même. Et ça, jusqu'au bac, nous avons fait comme ça.
C'était très dur.
Très très dur, et ne pas pouvoir, comme les petits Français, d'aller voir les parents et de dire nous étions, enfin, nous menions une vie très difficile.
Dakpo Rinpoche, vous souvenez-vous de votre propre exil?
Oui, c'est-à-dire aussi, j'ai eu beaucoup de chance dans ce cas-là aussi, parce que je suis arrivé, j'ai quitté mon pays en 59 comme la plupart des réfugiés tibétains, je suis arrivé en Inde. Je suis resté à peu près pendant un an en Inde. Ensuite, tout de suite, j'ai eu possibilité de venir à Paris. Alors, donc, depuis cette date, je vis à Paris. Donc, je pense que je n'ai jamais, presque, je peux dire, je n'ai jamais eu des problèmes graves.
Personnellement, je pense que nous devons quelque chose à cette école, parce que lorsque nous avions besoin de cette école, on nous a envoyé ici. Nous avons eu la possibilité de suivre des études en France. C'est pourquoi nous faisons, par exemple, des parrainages des jeunes enfants tibétains. Et bon, après les 8 heures de travail, nous essayons de trouver des parrains pour parrainer les jeunes enfants qui sont là-bas actuellement.
Vous habitez dans un appartement très classique, je dirais, pour Paris. Et je vois au-dessus d'une cheminée un autel avec Bouddha.
Oui.
Et autour de Bouddha, des offrandes, c'est-à-dire une pomme, deux mandarines et deux oranges.
Ben oui.
On a l'habitude de le faire tout le temps. Nos parents, on a toujours vu les faire la même chose. Je pense que c'est pour remercier Bouddha de nous avoir permis de manger tous les jours et de ne pas avoir faim. C'est pour remercier, façon de remercier et de faire partager ce qu'on a. Selon ce qu'on a, on l'offre avant de consommer à Bouddha.
Olivier Germain-Thomas,
vous avez donc maintenant souvent voyagé dans les pays occidentaux. C'est la première fois pour la France et pour l'Espagne. Vous êtes déjà allé en Angleterre, aux États-Unis, et j'aimerais savoir quel est le jugement que vous portez sur la société occidentale d'une manière générale, et ensuite, à l'intérieur de cette société occidentale, sur ceux qui s'intéressent à l'Orient. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, chez les orientalistes français, anglais ou américains, certains manques que vous avez pu notifier? Et nous aimerions, si possible, avoir une réponse la plus sincère possible, même si elle est dure à notre égard.
La société occidentale est très développée. Le développement matériel est très grand. Le bien-être, l'éducation, tout cela a fait de très grands progrès. Par conséquent, on voit les fruits qui peuvent être retirés de progrès scientifiques et technologiques. Mais les Occidentaux sont des êtres humains, n'est-ce pas? Et donc, ils demeurent dans cette condition humaine et ont à faire face aux difficultés fondamentales de l'homme, telles que la maladie, la naissance et la mort. Il me semble qu'il y a un danger certain, celui d'être complètement absorbé par ce progrès matériel, de se tourner complètement dans cette direction et d'oublier notre condition fondamentale d'homme. Et dès lors, je crois qu'un tel déséquilibre amènerait des grandes difficultés et beaucoup de souffrances. Lorsque, de plus en plus, la vie est consacrée aux choses matérielles, à gagner de l'argent, etc., que peut-on faire lorsqu'on devient vieux? On est comme en dehors de cette société, comme si la société vous avait laissé de côté, et alors on est sans espoir.
Je pense qu'il est extrêmement important d'allier au progrès matériel un progrès intérieur et de se tourner en soi-même. Ma critique, par conséquent, serait donc l'absence d'attention portée à soi-même, à son intériorité. Dans les grandes cités, nous voyons des millions d'êtres rassemblés ensemble, et pourtant, de très nombreuses personnes se sentent isolées. Par ailleurs, ce qui m'impressionne toujours, c'est la façon dont l'éducation occidentale est capable de développer l'initiative personnelle et la curiosité. Maintenant, je pense que l'intérêt que les Occidentaux portent à l'Asie est extrêmement valable, car la plupart des cultures asiatiques sont justement concernées par ces développements intérieurs. Et c'est donc cela qui me paraît extrêmement utile. Je pense cependant qu'il faudrait que ces gens fassent attention à ne pas croire que c'est parce qu'ils ont lu quelque chose ou entendu quelque chose qu'ils savent. Cette attitude pourrait empêcher ces personnes de pénétrer dans toute la profondeur de ces enseignements.
Au Tibet, les universités sont plutôt l'université monastique. Donc, on donne des enseignements sur le bouddhisme, la plupart, sur le bouddhisme aussi dans certains monastères, il y a de sur la médecine, astrologie, etc. Mais l'enseignement concernant la science moderne n'existait pas.
L'histoire, la géographie
presque n'existait pas, non.
Par conséquent, votre venue en France a dû être pour vous un changement radical.
Oui, c'est vrai. On peut dire que j'ai eu deux vies, n'est-ce pas, deux vies différentes. Mais ce que j'ai étudié au Tibet, par exemple, sur la philosophie bouddhiste, bon, j'ai étudié dans certains domaines de manière intellectuelle, bien sûr, mais je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter. Donc, quand je dois vivre ici, affronter à la vie moderne, donc j'ai pu expérimenter ce que j'ai appris. L'étude que j'ai faite au Tibet m'a permis de vivre sans problème dans la société moderne, si vous voulez.
Dakpo Rinpoche, avez-vous suivi personnellement les enseignements du Dalai Lama à Lhasa avant 1959?
Absolument, il y avait beaucoup de moines, aussi des laïcs. Il y avait beaucoup, beaucoup de laïcs, à peu près, je ne sais pas exactement, mais peut-être 5000 personnes, 6000, je ne sais pas exactement. Toujours, il y a des difficultés, je m'en souviens quelque chose, pas très agréable pour moi, parce qu'il est extrêmement difficile d'obtenir la place quand il donne des enseignements. Il faut courir toujours, il faut être au premier, si vous voulez, sinon on ne trouve pas la place.
Et il y a des gens qui font peut-être quelquefois des kilomètres.
Absolument, des kilomètres, des mois, même des mois. Les gens qui viennent de l'est du Tibet, donc ils voyagent pendant des mois.
C'est ça.
Aussi de Mongolie, autrefois.
Des voyages à travers la montagne, à pied et à cheval, pour écouter au moins une fois l'enseignement de sa sainteté.
Oui, aussi voir sa sainteté, aussi recevoir ses enseignements.
Pour vous, sa venue à Paris était une chose importante?
Moi, je pense que c'était très, très important. J'ai été vraiment très, très content de son séjour de Paris. Il a été très, très content aussi, parce qu'il m'a dit que il était très impressionné par des questions posées par les Français.
L'installation de monastères tibétains en France, en Angleterre, en Suisse et dans d'autres régions d'Europe et d'Occident est un phénomène culturel important pour notre époque. J'ai rencontré parfois des maîtres tibétains qui disaient que c'était une sorte de nécessité, cette pérégrination du bouddhisme, qui après avoir quitté l'Inde s'était installée au Tibet et qui maintenant, compte tenu de la situation politique, devait peut-être être abandonné au Tibet pour aller s'installer en Occident. Alors, je voudrais savoir quelle est l'opinion de votre sainteté sur ce phénomène, et je voudrais savoir si les lieux qui ont été choisis en Europe, et par exemple en France, les monastères tibétains sont installés à la fois en Bourgogne et dans la Guyenne, qui sont deux régions spirituellement importantes pour nous, si ces lieux ont été choisis à dessein ou si c'est le hasard d'achat de châteaux qui ont fait que les communautés sont installées là.
First,
premièrement, non, je n'ai pas d'opinion particulière sur le fait du passage de l'enseignement bouddhiste d'un pays à l'autre. Je pense que parmi les hommes, il y a de nombreuses dispositions, toutes très différentes. Et pour certaines dispositions, certaines traditions spirituelles ou religieuses, certaines philosophies sont plus effectives que d'autres. Les Tibétains en général sont bouddhistes, mais parmi eux, il se trouve des musulmans aussi bien que des chrétiens. Et dans les pays bouddhistes comme Ceylan, la Birmanie, la Thaïlande et d'autres, il y a également d'autres communautés religieuses. Je pense par conséquent qu'en Occident, dans les pays chrétiens, il y a certainement des gens pour qui le bouddhisme est mieux adapté. Dans le bouddhisme, il y a une chose extrêmement importante. C'est le fait de comprendre les choses par soi-même. L'investigation peut concerner les objets, la façon dont ils existent. Elle peut également concerner l'esprit. Maintenant, en Europe, il y a de nombreuses personnes qui s'intéressent à cela, qui pensent de cette façon, c'est-à-dire qui considèrent les choses ainsi. Il y a notamment toutes les personnes concernées par les disciplines scientifiques et par conséquent, je vois là une correspondance, une convergence extrêmement utile. Par ailleurs, l'endroit où les monastères ont été établis n'a d'autre raison que les conditions pratiques, telles que les possibilités d'acheter, etc.
Votre sainteté peut-elle nous dire quelle est la situation actuelle de son pays?
Now, since 79, things are improving.
Depuis 1979, la situation s'améliore.
So that is good news.
Et ceci est une bonne nouvelle.
Pensez-vous rentrer un jour au Tibet?
Oh, definitely.
Sûrement.
As you see, I always believe, feel that, I should consider my usefulness.
J'ai toujours eu le sentiment que la chose la plus importante, c'est mon utilité. Lorsque les 6 millions de Tibétains demeurant au Tibet ressentiront que la situation est devenue complètement satisfaisante, à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais la condition essentielle à mon retour est le bien-être de 6 millions de Tibétains.
Des autres, le Dalai Lama, Tibet et tradition, par Marie-Odile Monchicourt
avec la participation de Sa Sainteté, le 14e Dalai Lama et la communauté tibétaine de France. Texte lu par Claude Berman et Guy Chapelier.
Et la voix de Roger Brett en traduction du Dalai Lama.
Enregistrement du Dalai Lama, Eric Damaggio. Prise de son studio et mixage, Jean-Paul Herbert. Réalisation, Jacqueline Archambault. Bibliographie, Un cavalier dans la neige, L'histoire d'Athènes, un vieux guerrier Kampa, édité chez Jean Maisonneuve.
Diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 juillet 1983.